Quoi de neuf doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission autour de la santé.
Oh merde, elle est moche, en plus, elle est grosse.
Au départ de cette émission, plusieurs éléments. Ce titre de Marwa Loud qui, pour répondre à des attaques sur son poids, a pris le contre-pied avec humour en scandant « Allez les gros ». Et puis il y a une polémique sur les réseaux sociaux autour de l'émission « Opération Renaissance ». Cette émission, présentée par Karine Lemarchand, suit le parcours de personnes en situation de surpoids. La polémique s'est manifestée par le hashtag « Pas ma renaissance ». Plusieurs associations et personnes se sont indignées contre les raccourcis et la façon de traiter les personnes grosses dans cette émission. Et il y a aussi le partage d'expériences de Baptiste Beaulieu, médecin toulousain et chroniqueur radio. Il explique que les médecins sont formatés et obsédés, je le cite, par le poids. Dans quelques jours, c'est la journée mondiale contre l'obésité. Pour discuter avec moi de cette maladie peu connue finalement, l'obésité, le médecin nutritionniste Cyril Gauthier.
Bonjour.
Tout d'abord, un petit point de vocabulaire. Comment on définit l'obésité ?
Alors, actuellement, l'obésité se définit à partir de l'indice de masse corporelle, qui est le poids sur la taille au carré, c'est-à-dire le poids divisé par la taille, redivisé par la taille en mètres. Ça reste un critère chiffré qui ne permet pas de définir précisément la maladie avec sa complexité. Résumer une maladie aussi difficile, aussi comportementale, sociétale que l'obésité, la résumer à un chiffre, en particulier un chiffre anthropométrique, c'est compliqué. Définir l'obésité, c'est plus parler d'un excès de masse grasse qui entraîne des inconvénients pour la santé, dans son sens très large, la santé, c'est-à-dire le bien-être physique, mental et social. Et prendre en compte juste l'IMC, on voit bien que ça ne suffit pas. Parler d'un bien-être physique, mental et social, c'est pas un chiffre qui va nous le dire. Donc, on peut avoir des personnes qui souffrent d'obésité avec un excès de masse grasse, mais finalement, ils ont un IMC qui est pas forcément à 30. Et puis, des personnes qui sont à 31, 30, 32, qui sont classées obèses d'après l'IMC, mais qui finalement ont une santé qui est bonne, comme les grands sportifs, par exemple.
Est-ce qu'il existe des terrains spécifiques, on va dire, pour développer cette maladie ?
Alors, on a une prédisposition génétique qui nous prédispose plus ou moins à stocker l'énergie et donc à résister à la famine. Et donc, on a des gènes issus de nos parents qui nous conditionnent plus ou moins à souffrir d'obésité plus tard. Concernant l'aspect social, c'est vrai que dans les études, c'est démontré que les catégories socio-professionnelles plutôt basses souffrent plus d'obésité. Après, faut pas s'arrêter à ça. Est-ce que aussi on ne voit pas apparaître une discrimination vis-à-vis des personnes qui souffrent d'obésité, qui ne peuvent pas gravir les échelons sociaux comme d'autres personnes qui ne souffrent pas d'obésité? C'est un peu l'œuf et la poule. Effectivement, plus d'obésité dans les catégories socio-professionnelles basses, mais est-ce que c'est un lien direct avec l'obésité? C'est pas certain.
Et sur la différence entre hommes et femmes, est-ce qu'il y a plus d'hommes, plus de femmes?
L'obésité touche les deux sexes. En pourcentage, c'est globalement similaire, hein, même si on a des petites disparités en fonction des tranches d'âge. La femme va être beaucoup plus attentive sur son poids que l'homme. La pression sociale va s'exercer beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes, même si ça évolue un petit peu. Et le moment de la puberté va être un moment quand même très compliqué où les adolescentes qui voient leur corps changer sous l'effet des hormones, parfois prendre du poids sous l'effet des hormones, vont se sentir différentes de la norme sociale et vont commencer à établir un rapport particulier avec l'alimentation qui va devenir un outil de contrôle du corps. Et donc, du coup, les femmes vont avoir une attention particulière sur leur corps, vont avoir une attention particulière sur l'alimentation, ce que les hommes auront quand même beaucoup moins. La pression sociale est beaucoup moins forte sur le genre masculin. Et en plus de ça, les hommes à la puberté, la testostérone a plutôt tendance à faire prendre du muscle que de la masse grasse.
Quelles sont les répercussions de cette maladie sur la vie d'un patient ?
Elles sont nombreuses. Il y a l'aspect médical avec tout ce qui est facteur de risque de tout ce qui est dysmétabolique, diabète, stéatose hépatique, dyslipidémie, donc cholestérol, tout ce qui est cardiovasculaire, hypertension, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, tout ce qui est pulmonaire, syndrome d'apnée du sommeil. C'est la complication la plus fréquente, l'apnée du sommeil, elle n'est pas suffisamment dépistée. On a aussi tout ce qui est fertilité, que ce soit pour les femmes comme pour les hommes, tout ce qui est digestif, enfin, les complications sont nombreuses. On a tout ce qui est cancérologie. L'obésité, c'est un terreau pour ça facilite pas le cancer, mais quand le cancer, la cellule commence à devenir défectueuse, c'est un très bon terreau pour cette cellule cancéreuse. Donc et encore, je pense que je ne cite pas tout parce que sinon tout le monde va être déprimé. Mais il y a beaucoup de complications en lien avec l'obésité, et puis il y a tout l'aspect qualité de vie et socio-professionnelle, psychologique, où là on a un impact fort de l'obésité qui gêne les patients dans leur vie de tous les jours. Nous, globalement, que les patients s'améliorent physiquement, médicalement, c'est très bien, mais la première chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'ils ont le sourire, est-ce qu'ils font plus facilement leur lacet, est-ce qu'ils peuvent jouer avec leurs petits-enfants. Voilà des critères de qualité de vie qui sont, pour moi, beaucoup plus de sens, parce que au-delà de prendre en charge une pathologie, on prend en charge une personne qui vit la pathologie. Et notre objectif, c'est pas de faire en sorte qu'ils perdent du poids. Notre objectif, c'est que la personne se sente bien et qu'elle améliore sa qualité de vie sur le long terme.
Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'obèses. L'OMS parle d'une pandémie avec 1,9 milliard d'êtres humains en excès pondéral. Vous parlez de votre côté d'une maladie de civilisation. Qu'est-ce que ça veut dire ?
On pourrait définir l'obésité comme une maladie de confort, c'est-à-dire... notre société fait qu'on dépense quand même de moins en moins d'énergie avec les progrès qu'on peut avoir, la modernisation. Donc on est de plus en plus sédentaire, inactif. Pourtant, on n'a jamais eu autant de temps pour les loisirs, mais nos loisirs sont beaucoup moins en lien avec l'activité physique. Et puis on a aussi une alimentation qui a évolué. Donc on est avant l'être humain mourait de famine, donc et pendant des milliers d'années. Donc on est conçu génétiquement avec l'évolution pour résister à la famine. Cette civilisation qui a évolué dans le sens qu'on connaît a eu certes un bénéfice au départ, mais aujourd'hui le corps n'est pas conçu pour résister à cette suralimentation et à cette inactivité. Et c'est ce qui fait que si on est un tant soit peu prédisposé pour résister à la famine génétiquement, dans la société actuelle, société moderne, on exprime cette prédisposition et on souffre d'obésité. Le terme pandémie, il est fort, mais c'est une réalité. C'est une maladie qui se répand de manière incontrôlable à l'échelle mondiale. Et en France, on est la moitié de la population, globalement, souffre de surpoids.
Comme toute maladie, il y a forcément des traitements. Du coup, c'est quoi les traitements ?
Il y a eu des médicaments qui sont sortis sur le marché, et je citerai pas les noms, mais c'était des amphétamines cachées. Donc certes, oui, prendre des amphétamines, ça fait maigrir. Mais est-ce que c'est bon pour la santé ? On n'en est pas certain. Tous ces médicaments, ces amincissants, sur le long terme, ça fonctionne pas, et c'est même plutôt délétère. On a eu tout ce qui est capteur de graisse. Les capteurs de graisse, vous mangez un peu gras, pof, vous avez des troubles digestifs. Donc oui, ça peut fonctionner, mais globalement, sur le long terme, on sait très bien que ce type de molécules, ça ne marche pas. Donc on n'a pas de médicaments. En fait, il faut bien comprendre, on essaie de faire comprendre aux personnes qui souffrent d'obésité qu'il n'y a pas une solution. C'est pas la solution, parce qu'une personne est une mosaïque de comportements. C'est-à-dire que une personne, elle souffre d'obésité pas parce qu'elle sait pas manger. Une personne, elle souffre d'obésité parce que dans sa vie de tous les jours, les habitudes sociétales, les habitudes éducatives, les habitudes professionnelles font qu'elle mange parfois un peu trop, qu'elle a pas assez dépensé. Peut-être que sa qualité nutritionnelle est pleine d'idées reçues, parce qu'elles ont toutes fait plein de régimes et elles ont plein d'idées reçues sur ce qu'il faut manger, alors que finalement, manger, ça doit rester un acte simple et pas si complexe que ça. On n'a pas une solution. Par contre, on peut trouver une méthode propre à chacun. Mais pour que la personne trouve sa méthode thérapeutique, son parcours de soins, elle doit déjà comprendre ce qu'elle a. Comprendre que tout ça nécessite un travail comportemental, certes une approche qualitative au niveau de l'alimentation, une approche quantitative, mais pas des dogmes qu'elle va s'imposer. Et que cette démarche dans laquelle on la fait rentrer, que ce soit la sienne, et qu'elle puisse la maintenir à vie, et pas juste la maintenir parce que on lui a demandé de le faire et que globalement au bout d'un an, si on n'est plus là, elle le fait plus. Donc pas de traitement, on n'a pas de molécules pour l'obésité, pas encore en tout cas. Les théories sur les microbiotes, sur le tissu adipeux brun, donc tout ça pour l'instant, ça reste de la recherche. Hein. On en est encore très très loin. Tout globalement, traiter le comportement d'une personne avec une molécule, moi je l'ai jamais vu. Il faut aider les personnes à changer les comportements. Et c'est pas une molécule ou un médicament qui le fera. En tout cas, pas aussi simplement que ça.
Mais du coup, si l'obésité est vue comme une pandémie, c'est quoi l'état de la recherche sur l'obésité? Est-ce qu'il y a vraiment un vrai travail qui est en train de se mettre en place pour pallier cette maladie?
Oui, il y a beaucoup de travaux qui sont en place. Il y a, comme je vous l'ai dit, des travaux sur le microbiote, des travaux sur ce qu'on appelle le tissu adipeux brun. Ce sont des cellules adipeuses, donc des cellules graisseuses, que possèdent essentiellement les animaux qui hibernent et qui, au lieu de stocker la graisse, consomment la graisse pour produire de la chaleur. Donc, on a des voies de recherche, on a aussi des voies de recherche sur ce qu'on appelle le MC4R, c'est-à-dire une mutation qu'on peut voir apparaître chez des personnes qui gênent le fonctionnement du métabolisme. Je schématise, hein, mais voilà, on a des pistes de réflexion. Je pense que la recherche, elle est primordiale pour avoir des outils, des béquilles à proposer à des personnes qui sont en situation d'obésité assez sévère. Mais que le gros travail, ça reste un travail d'éducation, de pédagogie, de comportement et surtout de bien cerner la personne qui vit la problématique et pas juste résumer la personne à une maladie. C'est ça la problématique dans l'obésité.
Un des traitements, entre guillemets, possibles, ce serait une opération de chirurgie. Elles ont été multipliées par 4,5 ces dernières années. Est-ce que c'est en lien avec le nombre de personnes obèses qui augmente?
Ça augmente plus vite que le nombre de personnes qui souffrent d'obésité. Donc, ça ne suit pas l'augmentation de l'obésité, clairement. On est surtout sur une approche chirurgicale qui s'est développée, qui s'est démocratisée. C'est une chirurgie où les patients sont quand même bien préparés en amont. On dépiste tout ce qui peut entraîner des complications et ils sont quand même assez bien suivis après. Ça s'est développé à cette allure parce que le système de soins français n'arrive probablement pas encore à accompagner les personnes qui souffrent d'obésité avec des parcours de soins médicaux structurés. Les personnes qui souffrent d'obésité, tout le monde va leur dire qu'elles doivent maigrir. Tout le monde. Tous les médecins qu'elles vont croiser, si elles ont mal au genou, c'est parce qu'elles sont obèses. Si elles ont du mal à respirer, c'est parce qu'elles sont obèses. Si elles ont un problème gynéco, c'est parce qu'elles sont obèses. Enfin, tout le monde va leur dire, la société va leur dire, les médias vont leur dire. Sauf que le système de soins n'est pas encore suffisamment équipé pour accompagner ces personnes dans un parcours médical. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Ben, elles vont chercher la solution ailleurs. Et la solution qui est proposée encore à l'heure actuelle, ce sont les régimes. Les régimes assez restrictifs. On vous propose la solution qui va vous faire maigrir. Sauf que faut pas oublier que ces personnes, si elles souffrent d'obésité sévère, c'est qu'elles sont relativement prédisposées à résister à la famine génétiquement. Sauf que si vous imposez une famine artificielle et un régime, c'est rien d'autre qu'une famine artificielle qu'on se crée, ça marchera jamais parce qu'on est conçu pour résister contre ça. Donc on va certes perdre, mais derrière, le corps étant conçu pour résister à ce mécanisme de restriction, il va y avoir un phénomène de reprise avec un rebond, ce qu'on appelle le yo-yo. Et plus ces personnes vont faire de régime, plus elles vont se retrouver en difficulté, moins elles auront de possibilités de perdre du poids. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qu'elles pensent? Elles se disent pourquoi pas la chirurgie. Quand elles arrivent dans le parcours de chirurgie, elles ne se voient pas jugées. Ce sont des patients qui souffrent d'une maladie. Et puis le parcours est structuré. C'est-à-dire que le chirurgien qui va les voir, il va leur dire, écoutez, il faut voir tel professionnel de santé, voir le médecin nutritionniste, l'endocrinologue, la diététicienne, le psychologue, le psychiatre. Vous allez faire tout un bilan avec pneumo, cardio, etc. Et là, cette personne qui a été montrée du doigt pendant des années, se dit, ouais, chouette, on va s'occuper de ma problématique et on va m'accompagner. Donc, c'est logique qu'il y ait une telle augmentation de la chirurgie d'obésité, mais moi, je le vois plutôt comme l'aveu d'échec d'un parcours de soins médical qui n'est pas encore bien conçu pour prendre en charge l'obésité.
Dans cette émission, on s'est retrouvé souvent face à cette conclusion. En fait, il y a pas mal de choses à changer aussi dans la façon dont la médecine elle est pratiquée aujourd'hui et depuis toujours. En fait, Du coup, on l'a entendu à demi-mot dans ce que vous racontez, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que les personnes obèses soient vraiment prises en charge le mieux possible ?
Toutes les personnes que je vois en consultation, elles savent toutes manger équilibré. Elles me disent non au départ, mais quand je leur fais comprendre qu'elles savent manger équilibré c'est du bon sens, c'est manger varié, c'est sortir justement des dogmes et des idées reçues. On a des recommandations en France qui sont très bien faites avec Santé publique France. La problématique, ce sont que les patients mangent trop, essentiellement. Ils mangent pas trop parce qu'ils savent pas manger équilibré, ils mangent trop parce que leurs habitudes éducatives leur demandent de finir leur assiette. Leurs habitudes professionnelles et sociétales leur imposent de manger rapidement. Les dogmes de société leur imposent 3 repas par jour, avec un petit déjeuner qui doit être gargantuex, parce que c'est comme ça, quoi. On nous a tous dit qu'il fallait manger beaucoup le matin. Et puis, vous avez aussi toute cette part d'alimentation qui va être en lien avec des problématiques émotionnelles. Vous avez ces personnes qui, quand elles vont rentrer du travail, vont avoir ce grignotage vers 17h, 18h. C'est pas de la compulsion, mais c'est un peu comme une prise addictive, c'est-à-dire on a la charge émotionnelle de la journée qui augmente et en fin de journée on a besoin de décompresser sur quelque chose. Et ben là, l'alimentation peut jouer ce rôle comme une drogue, le tabac ou l'alcool. Là, c'est une approche plus comportementale à avoir sur ce type de prise. Et puis vous avez les personnes qui vont utiliser l'alimentation soit pour calmer des émotions, soit pour générer des émotions. Quand on va pas bien, l'alimentation, c'est un plaisir, ça peut faire du bien. Et quand on va pas bien, l'alimentation, ça peut calmer. On peut avoir des mécanismes de compulsion, se remplir. On leur a pas expliqué exactement que l'obésité, c'était pas juste savoir ce qu'on met dans l'assiette ou la quantité qu'on doit mettre, que c'est travailler sur des sensations, travailler sur des comportements, travailler sur une gestion des émotions, travailler sur finalement s'accorder un peu de temps pour comprendre comment on fonctionne.
D'un point de vue médical, qu'est-ce qu'il faudrait changer ?
Avec l'ARS et l'Observatoire Régional de la Santé, on avait fait une enquête sur la perception de l'obésité chez les médecins. C'est parfois surprenant de voir la difficulté de certains médecins parce qu'aborder l'obésité, c'est pas facile en cabinet tout seul. Pour moi, c'est facile, les gens ils viennent nous voir pour ça. Mais quand vous avez quelqu'un de 150 kg qui vient vous voir parce qu'il a un traitement pour la tension, c'est pas facile d'aborder le sujet de l'obésité parce qu'il y a une connotation extrêmement négative de la société. Donc c'est pas un sujet facile à aborder. Puis dans les études de médecine, la médecine s'est concentrée, c'est une bonne chose, sur les organes, sur les pathologies, mais c'est à mon sens pas suffisamment concentré sur l'approche nutritionnelle et l'approche préventive en nutrition. D'ailleurs, en plus de ça, je pense qu'il n'y a pas que les médecins. On a beaucoup de soignants, que ce soit des professionnels de santé, diététiciennes, psychologues, tout ce qui est en activité physique adaptée, tout ce qui est le monde de l'éducation nationale, les infirmières de scolarité, toutes ces personnes ont un rôle à jouer. Il y a une sorte de cohérence à trouver avec une approche globale, mais que tous les intervenants qui gravitent autour de ces personnes aient cette même approche. Et pour avoir la même approche, il faut être formé globalement de la même manière. Mais il faut être formé.
Formation et prévention, c'est quand même les deux mots qui ressortent de cette interview, finalement.
Arriver en thérapeutique, c'est bien. Et on essaye de faire plein de choses pour nos patients. Mais éviter que la personne souffre de cette pathologie, c'est encore mieux. Et pour l'éviter, moi, la première chose, c'est quand on voit des jeunes, des adolescents, c'est d'éviter les régimes. Il faut vraiment éviter ces mécanismes de restriction et avoir une approche dès l'adolescence de pédagogie pour derrière leur faire vraiment qu'ils s'approprient la démarche que je vous ai dit au départ. Il faut qu'ils s'approprient leur pathologie et la démarche thérapeutique. Comme quelqu'un qui est asthmatique, comme quelqu'un qui a de l'arthrose, il faut s'approprier tout ça et comprendre le parcours de soins et savoir que c'est chronique. Et quand une maladie est chronique, on a des rechutes. Le gros souci dans notre spécialité, c'est que la rechute, elle est souvent considérée comme un échec. Et c'est ça qui est dommage, c'est que une personne diabétique, quand elle rechute, elle va voir son diabéto, elle va voir son infirmière d'éducation thérapeutique ou sa diététicienne ou son médecin traitant. Et cette personne va faire le point, comprendre pourquoi du jour au lendemain, elle est déséquilibrée. Parce que cette personne qui est diabétique, elle a accepté une chose, elle souffre d'une maladie chronique. Ce que dans le cadre de l'obésité, on voit pas encore. C'est-à-dire que les personnes ont du mal à accepter le fait de vivre une maladie chronique et le fait que dans toute maladie chronique, on aura des rechutes. Ces rechutes deviennent des échecs si on les prend pas en charge. si on les prend en charge, les rechutes ne deviennent pas des échecs. Les rechutes font partie du parcours de soins. Donc, vous voyez, il y a toute une approche comme ça à avoir avec le patient, lui faire comprendre sa pathologie, la démarche, et puis qu'il prenne un peu de distance aussi par rapport à tout ça.
Cyril Gauthier, médecin nutritionniste. Il est aussi le fondateur de l'EMNO, l'espace médical, nutrition et obésité de Dijon, pour une prise en charge globale des troubles liés à la nutrition. Et merci à Ludovic Orgé, président de l'association Pèse Plume, pour son aide à la préparation de cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet. À bientôt. Quoi de neuf, Doc ? Le quatrième vendredi du mois sur Radio B.